ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour, bonjour, auditrices, auditeurs de RCF. Vous écoutez votre émission de jazz comme à la radio. Et aujourd'hui, c'est Laurent qui va continuer à nous parler des influences exotiques dans le jazz. Et effectivement, lors d'une de nos dernières émissions, nous avions évoqué les influences exotiques qui sont venues enrichir la palette de notre musique préférée. Au départ, le jazz était l'expression d'une communauté, celle des Noirs, au sein d'un pays, les États-Unis. Mais la nature profondément fédératrice de cette musique a fait qu'elle s'est nourrie de toutes les cultures qui ont croisé sa route. En même temps, elle imprégnait à son tour toutes les formes musicales actuelles. Et à propos de ces influences exotiques, nous avions bien sûr commencé par l'Afrique noire, la région des origines de la communauté noire américaine. Nous avions aussi évoqué les voisins américains du centre et du sud et les très riches influences de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Israël. Mais le compte n'y était pas, Laurent. Il y a bien d'autres cultures qui se sont mariées avec le jazz.
Eh oui, Alex, c'est bien vrai, il y a de quoi faire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Extrême-Orient, de l'Inde, de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est. Alors, c'est pas un hasard, probablement, si les zones du monde qui sont les plus éloignées géographiquement des États-Unis sont celles qui ont le moins imprégné le jazz. Cet éloignement a probablement joué un rôle plus important que la distance culturelle elle-même. Par exemple, l'improvisation et le jeu collectif sont présents dans certaines musiques de l'Inde ou du Japon et auraient pu influencer le jazz tout autant que les musiques d'Afrique du Nord. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Il y a tout de même des exceptions. La musique indienne, notamment, a apporté sa contribution par l'intermédiaire de très grands musiciens qui ont réalisé le lien du côté indien, comme le célèbre Ravi Shankar, et du côté américain, comme John Coltrane, Yusef Lateef, John McLaughlin ou John Mayer. D'ailleurs, on va écouter une sorte de curiosité, le double quintet de John Mayer et Joe Harriott dans un extrait d'un thème donc, qui est très inspiré de musique indienne et qui s'appelle Multani.
RCF Nice Côte d'Azur, la joie se partage.
Yeah.
John Mayer, Multani. Et plus loin à l'est, il y a aussi la Chine et le Japon. On imagine une proximité culturelle de jazz plus forte avec le Japon. Laurent, est-ce que c'est le cas ?
Oui, on peut dire ça comme ça, mais on comprend bien que l'Inde, par exemple, ait influencé l'Amérique via le bouddhisme, ou que le Japon s'en soit rapproché, notamment via la présence militaire américaine, puis le développement et les échanges économiques qui ont suivi. Par contre, de la Chine et du jazz, il n'y a pas grand-chose à dire. La Chine est restée jusqu'à récemment très fermée sur elle-même. Il y a quelques tentatives récentes qui devraient se développer pas mal avec des échanges culturels ou la création de festivals ou même de clubs de jazz. Le célèbre Blue Note a annoncé en juin qu'il allait s'installer en Chine. Mais bon, tout reste à faire. Au Japon, par contre, il existe une tradition du jazz qui est bien ancrée depuis les années 20. Osaka est considérée comme la Mecque japonaise du jazz, mais il s'agissait d'une forme très américaine de jazz. Pourtant, la présence américaine après la guerre a été décisive, mais elle n'était pas forcément bien perçue par les Japonais. Et pour s'installer, le jazz a dû un petit peu se japoniser. Alors, la fusion a tout de même été difficile. Et c'est plus récemment que l'identité jazz du Japon s'est affirmée, tout en restant quand même musicalement très proche de ses racines américaines. On va écouter une illustration avec un saxophoniste qui est Sadao Watanabe dans un morceau qui s'appelle Requiem for Love.
Et nous avons partagé avec joie et avec vous ce Requiem for Love de Sadao Watanabe. Et vous êtes bien sur RCF, vous écoutez comme à la radio votre émission de jazz. Alors, aujourd'hui, nous parlons des influences exotiques dans le jazz. Et après l'Extrême-Orient, notre voyage nous ramène en Europe. Nous allons visiter aujourd'hui l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Commençons par le Nord. Il fallait bien le jazz pour réchauffer les cœurs quand on se rapproche du cercle polaire, Laurent.
Eh oui, on peut dire que de Hambourg à Copenhague ou Stockholm, ça chauffe, voilà. Depuis les années 70, ces pays nordiques ont vu fleurir des musiciens exceptionnels, comme le célèbre contrebassiste danois NHOP, Nils Henning Ørsted Petersen, le trio suédois EST ou le pianiste allemand Joachim Kühn. On peut rattacher à ces pays, culturellement, ceux de l'Europe centrale qui sont le moins influencés par les Balkans, comme la République tchèque, marquée par l'héritage si puissant du contrebassiste Miroslav Vitus. Ici, ce ne sont pas tellement les racines musicales locales qui pénètrent le jazz, mais plutôt une couleur, un état d'esprit qui produit un jazz mystique et lyrique que nous aimons beaucoup sur RCF, où on l'entend souvent. Nous entendrons aussi le 13 novembre au festival Jazz sous les Bigaradiers de la Gaude l'ensemble danois du New Jungle Orchestra. Et nous n'avons donc que l'embarras du choix pour illustrer musicalement cette rencontre de l'Europe du Nord et de la culture américaine. Alors j'ai choisi le trio du pianiste Joachim Kühn qui recevait justement ce jour-là le sax Archichep dans un morceau qui s'appelle L'Éternel Voyage, extrait de l'album Voodoo Sands. Donc on retrouve à la fois l'Europe du Nord, les USA, les Caraïbes et les racines africaines.
Joachim Kuhn, Archie Shepp, Eternal Voyage. On a retrouvé avec ces deux musiciens exceptionnels à la fois l'Europe du Nord, les USA, les Caraïbes et les racines africaines. Et nous allons rester en Europe et nous en venons maintenant au gros morceau de ces influences exotiques dont nous parlons aujourd'hui, celle de l'Europe de l'Est.
Les pays des Balkans, en effet, ont une vivacité culturelle forte qui se traduit par une musique très typée et vivante. Une originalité si forte qu'elle a gardé toute sa personnalité au-delà de la mondialisation de la musique. Ainsi, contrairement aux musiques de l'Amérique centrale et du Sud, dont le jazz s'est emparé et qui l'a faite sienne, c'est plutôt la musique d'Europe de l'Est qui s'est emparée du jazz. Ou bien alors l'assimilation a été totale pour donner naissance à un type de musique tout à fait particulier, ce qu'on a appelé le jazz manouche. C'est une musique si fusionnelle qu'elle n'est née ni en Amérique ni en Europe de l'Est, mais entre les deux, en France. Alors cette situation particulière est liée à deux choses. La première, c'est la culture nomade des manouches, porteurs de cette musique, ceux qu'on appelle les gens du voyage. Leur communauté est forte dans les pays d'Europe occidentale. Le deuxième élément, c'est le génie d'un homme, l'un des tout plus grands de l'histoire du jazz, un certain Django Reinhardt. C'est quasiment lui qui a inventé cette musique avec ses mélodies influencées par la chanson européenne et la musique des Balkans, avec un rythme particulier aussi qui s'est construit sur la singularité des instruments utilisés, sans tambour ni trompette. Essentiellement des instruments à cordes, guitare, contrebasse, violon, avec parfois une clarinette ou un accordéon. Il faut pourtant reconnaître que cette musique si forte et si particulière n'a que peu évolué, contrairement par exemple au jazz latin. Si Django a laissé une descendance musicale nombreuse, prolifique et talentueuse, les formes actuelles sont souvent plus proches de l'hommage que de la création. Django lui-même, d'ailleurs, avant sa mort, avait montré la voie en bousculant les boppers qui étaient les avant-gardistes d'alors. Et s'il avait vécu, il aurait probablement su créer d'autres ponts qui n'ont pas vu le jour malheureusement. On va écouter la rencontre magique entre Django Reinhardt et l'orchestre de Duke Ellington, enregistré à Chicago en 1946 dans Honeysuckle Rose. Thank you.
Django Reinhardt avec le grand orchestre Duke Ellington nous interprétait Honeysuckle Rose. Un vrai bonheur, la joie. Alex, c'est moi et je vous disais que le jazz manouche, si original et si puissant, était resté plutôt figé dans son histoire. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les formes de musique d'Europe de l'Est qui ont pénétré le jazz, Laurent, à toi.
Et oui, Laurent, c'est moi, et c'est vrai, en dehors du manouche, l'influence de l'Europe de l'Est dans le jazz est marquante. Même si elle est moins prégnante que celle de l'Amérique centrale et du Sud, parce que plus éloignée du berceau américain du jazz. On y retrouve les deux formes habituelles des influences exotiques dans le jazz. Soit la musique locale s'oriente vers le jazz en lui empruntant des éléments rythmiques et harmoniques, soit le jazz garde une couleur très américaine, mais emprunte à son tour des éléments mélodiques et rythmiques à la musique de l'Est. Dans le premier cas, on conserve deux éléments clés de la musique de l'Est, la structure des formations musicales, très cuivrée et pas si éloignée des fanfares de la Nouvelle-Orléans, et l'ensemble des rythmes binaires et des gammes orientales ou mixtes. Dans le second cas, ce sont à nouveau des musiciens exceptionnels qui opèrent la fusion des genres en restant plus près des codes du jazz. Et on va terminer donc cette série d'émissions consacrées aux influences exotiques dans le jazz en écoutant l'un des porteurs les plus expressifs et talentueux de cette culture de l'Est, le pianiste Boyan Zedd, avec son quartet dans un morceau jubilatoire qui s'appelle Nishka Banya.
C'est avec regret que nous vous quittons après avoir écouté les influences exotiques dans le jazz que nous a concocté aujourd'hui Laurent.
Au revoir à toutes, au revoir à tous, au revoir Alex.
Ciao, ciao.
RCF, la joie se partage.